chapitre 36. Le 20 août 2016, 11h. Franck n'avait fait aucun commentaire lorsque Clotilde était remontée au bungalow. Difficile de deviner depuis combien de temps il était arrivé, il avait déjà pris sa douche, fait valser ses runnings, avalé un café. « Je l'ai retrouvé », précisa seulement Clotilde en montrant son anneau d'argent. Difficile également d'interpréter son sourire ironique. Clotilde se contenta de faire ce que font toutes les épouses du monde lorsque l'homme se recroqueville dans sa coquille en refusant de communiquer. Se bloque un moment, tel un appareil ménager fatigué qu'il faut juste laisser se reposer. Elle meubla le silence. Parla de tout, de rien, comme si tout était normal, comme si tout allait bien. Parla de Valentine, parla même de la cuisine.
Une marinade, ça vous dit? Je file au marché et on se fait ça à midi. Ça nous changera des barquettes de frites.
Franck n'attendait que ça, au fond. Que tout redevienne normal. Qu'elle soit une épouse normale. Qu'il mène une vie normale. Pour aujourd'hui, au moins, elle pouvait bien jouer la comédie.
Vous venez avec moi? Valou, Franck?
Aucune réponse. Elle allait se coltiner les courses seule. Objectif atteint. Une vie normale. Même si le sac de course pesait une tonne au bout de ses doigts, Clotilde était particulièrement fière de ses trouvailles. Des poivrons et de l'huile d'olive pour une piperade, des ribs de bœuf marinés, façon stouffatou, des mangues et des ananas pour une salade de fruits. Elle demanderait à Franck d'allumer le barbecue, histoire que chacun joue jusqu'au bout son rôle dans cette pièce de théâtre ensoleillée. Les vacances de la famille Baron. En attendant, à la caisse de l'Intermarché de Calvi, qui devait faire 80% de son chiffre d'affaires pendant les 2 mois d'été, justifiant ainsi l'interminable file d'attente, elle avait griffonné sur le verso de sa liste de courses. Une liste de questions, sans réponse. Qui lui avait écrit cette lettre signée P? Qui avait volé son portefeuille? Qui avait baptisé le chien d'Arcanou, Pacha? Qui avait mis la table du petit déjeuner hier? Qui avait appris à Orsou à passer la serpillière? Qui avait saboté la rotule de direction de la Fuego de ses parents? Qui avait saboté le mousqueton du baudrier de Valentine? Qui est le fantôme aperçu par Natale, à 21h02, le 23 août 1989, à la Punta Rossa? Impossible que ce soit la même personne. Impossible que ce soit sa mère. Impossible que ce ne soit pas sa mère, pour au moins la moitié des réponses à ces questions. Franck avait sans doute raison. Pour être heureuse, mieux valait lister les courses que les questions. Se concentrer sur l'énumération d'ingrédients insignifiants plutôt que sur la page blanche au dos. Ne lire que le recto de sa vie. Éventuellement, glisser un amant dans son caddie. Tout en pesant les conséquences de ses résolutions, elle ne résista pas à une petite entorse à la raison. Un détour de moins de 30 mètres sur le chemin du retour. Prendre l'allée A au lieu de la C, et passer devant le mobilhome A31. Simplement, jeter un œil pour voir si Jacob Schreiber était là, s'il avait eu le temps de récupérer les photos de l'été 89 dans son fameux cloud. Pas pour les regarder, simplement lui demander. Personne.
Jacob?
Peut-être le vieil Allemand était-il sourd? Peut-être écoutait-il sa fichue radio? 72e question, un voyage dans la lune à gagner.
Jacob?
Elle cogna à la porte du mobilhome, assez fort pour qu'elle s'ouvre. Elle n'était que poussée.
Jacob?
Ça ne ressemblait pas à l'Allemand de quitter son domicile en laissant tout ouvert. Pourtant, difficile d'imaginer qu'il se cachait quelque part dans les 28 mètres carrés de sa maison posée sur aglo. Étrange. Clotilde se fit la réflexion que si Herr Schreiber revenait, avec ses boules de pétanque à la main ou son appareil photo autour du cou, elle risquait de tout gâcher. Le vieil Allemand n'était pas du genre à apprécier qu'on entre chez lui sans son autorisation. Surtout s'il avait passé une partie de la soirée à lui rendre service en recherchant ses vieux clichés. Stupide petite sotte, fiche le camp de là. Va éplucher tes poivrons, reviens cet après-midi ou demain.
Clotilde allait sortir lorsque son regard accrocha l'une des photos collées sur le mur. Son frère, Nicolas. Clotilde s'approcha. En réalité, parmi les centaines de photos scotchées aux parois du mobilhome, il n'était pas si difficile de repérer celles qui concernaient ces années, de 76 à 89. Ni les corps bronzés, ni le décor ne changeaient. La mer, le sable, les vagues. La citadelle de Calvi au premier plan, le Cap Corse au dernier. Mais les habits, pourtant souvent réduits à des maillots, révélaient sans ambiguïté la décennie du cliché. La longueur d'un short, la marque d'une casquette, la surface de fesses et de poitrine recouverte par le tissu imprimé. C'en était même stupéfiant. Autant de changements dans ces détails vestimentaires, alors qu'en apparence, rien ne changeait d'une année sur l'autre, et que Clotilde avait toujours eu l'impression de ressortir en juin les mêmes vêtements, ceux qu'elle avait rangés au mois de septembre précédent. Fiche le camp, petite sotte. Elle posa son sac de course. Dans l'allée A, elle entendait des campeurs passer. Nicolas, sur le cliché, avait moins de 5 ans. La photo la bouleversa. Elle se vit aussi dans les bras de sa mère. Elle n'avait pas 1 an. Avec des joues rouges comme des pommes, un atroce petit chapeau de marin bleu tenu par un élastique sous le menton qui avait l'air de l'énerver. Et de petits pieds potelés qui semblaient n'avoir qu'une envie, marcher dans le sable chaud ou dans l'eau froide. Pas de papa sur la photo. Elle le chercha. Le trouva sur une autre. Nicolas avait 11 ans et elle 8. C'était un 15 août, pendant le feu d'artifice. Tout le camping se tenait sur la plage de l'Ochilucha. Aucune paillote alors dans le décor, mais Clotilde, dans la foule de visages, reconnut Natale, incroyablement beau, du haut de ses 18 ans, tenant la main d'une blonde sublime, avec des cheveux jusqu'aux fesses, une fille qu'elle n'avait jamais vue. Elle reconnut également Basile Spinello, le sergent Cesareo Garcia, Elisabetta et Speranza côte à côte. Elle entendait des pas dehors, tout près, sans y prêter attention. Dans un camping, il faut s'habituer à cette impression que les voisins vivent chez vous. Ses yeux continuèrent de détailler le mur de clichés. Elle avait repéré d'autres photos. Été 89, elle était certaine. Elle reconnut la robe Benoa noire de maman, celle imprimée de rose rouge que papa lui avait achetée à Calvi. La photo avait dû être prise quelques jours avant l'accident. Elle était belle, ta mère. Clotilde se retourna d'un bond. Une main glaciale se posa sur son épaule nue. Doucement, Clotilde, doucement. Vraiment, tu ne trouves pas qu'elle était belle, ta maman? Cervone Spinello, le directeur du camping en personne. Ce serpent était entré en rampant, silencieux. Qu'est-ce qu'il fichait là? Pire encore, pourquoi ne la questionnait-il pas? Il aurait dû s'étonner de la trouver là. Au contraire, il semblait s'intéresser à tout sauf à elle, observant avec inquiétude chaque coin du mobilhome. « Jacob est là ?» se contenta-t-il de demander. Clotilde hocha négativement la tête. « Merde !» jura Cervone. « Qu'est-ce qu'il fout, le Prussien ?»« Serge, Christian et Maurice l'attendent sur le terrain de pétanque. Pas une fois depuis 30 ans, il n'a été en retard. » Il haussa les épaules, baissa les yeux, donnant l'impression d'inspecter la propreté du sol. Il a passé l'âge de suivre une touriste de passage dans le maquis, mais on va tout de même attendre un peu avant d'appeler la cavalerie. Cervone observa le mur de photos. Peut-être qu'il en a tout simplement eu marre de photographier toujours le même coin et qu'il est parti avec son appareil un peu plus loin. Clotilde ne disait toujours rien. Cervone insista. Car si ce vieux Bosch est le client le plus chiant de tout le camping, faut bien reconnaître qu'il est plutôt doué pour les portraits. Il parvient à faire remonter les souvenirs à la surface mieux que s'il avait tout filmé, regarde. Du doigt, Cervone suivait d'autres instantanés. Un groupe d'ados se tenait autour d'un feu de camp. Clotilde s'en souvenait. La photo avait été prise la veille de l'accident, tard dans la soirée, sur la plage de l'Alga. Nicolas essayait de jouer de la guitare, la tête de Maria Tiara posée sur son épaule. On reconnaissait toute la tribu autour des flammes. Estéphane, avec un djembé entre les cuisses.
Hermann avec un violon entre les mains. Aurélia dévorant de ses yeux d'olive, sous ses gros sourcils, les musiciens. Et Nicolas en particulier.
C'était nos années.
Cervone semblait heureux comme un gosse et soudain, croisant le visage fermé de Clotilde, il se figea.
Désolée, Clotilde, je suis le roi des cons des fois.
Des fois.
Nos années. Moi, je pense à mon adolescence, aux filles, aux fiestas, alors que toi...
Laisse tomber, Cervone. Si je ne voulais pas en entendre parler, il ne fallait pas que je revienne aux Euproctes.
Sauf que tu voulais connaître la vérité.
Cette fois, Clotilde le fixa avec intensité.
Qu'est-ce que tu en sais, toi, de la vérité?
Cervone poussa du bout du pied la porte du mobilhome pour la refermer. Dans sa main, il portait un étui de 3 boules de pétanque à moitié rouillées. Si c'était une arme, pensa Clotilde, elle ne ferait pas le poids avec son filet et ses 3 poivrons. Elle se forçait à plaisanter. Le patron du camping l'inquiétait. Qu'est-ce qu'il fichait ici? L'avait-il suivi? S'il tentait quoi que ce soit contre elle dans cette maison de tôle et de planches, elle pourrait toujours crier, on l'entendrait. Le premier visage qui lui vint fut celui de Franck, pas celui de Natale. Parce que Franck était plus près. Stupidement, c'est ce qu'elle pensa.
Regarde.
Dans le mobilhome plongé dans la pénombre, Cervone désigna du doigt une photographie. Devant les voitures garées sur le parking des Euproctes, des hommes jouaient à la pétanque. Clotilde ne les reconnaissait pas. Mais derrière eux, elle était là, intacte. Elle chancela sous le choc. La fuego rouge.
Tu es allé voir le sergent Garcia? Il t'a parlé de sa conviction, je suppose.
Cervone était au courant. Cervone savait pour la rotule de direction sabotée. Le sergent Cesareu Garcia lui avait pourtant affirmé que son enquête était confidentielle. Qu'il n'avait informé que Cassano Idrissi, personne d'autre, pas même sa fille. Quel rôle jouait Cervone et Spinello dans toute cette histoire? Temporiser.
Quelle conviction?
Demanda Clotilde en tentant de feindre l'innocence. Le patron du camping sourit, sans quitter la fuego des yeux.
Que la direction de la voiture de ton père a lâché, d'un coup, et qu'il ne s'agit pas d'un malheureux coup du sort. Et paf. Sauf que le vieux sergent ne sait pas tout, ajouta Cervone.
Le doigt de Spinello passait sur le cliché. Parmi les hommes, son index s'arrêta sur un type de dos.
Observe bien ton père et regarde derrière lui. On le voit à peine.
Il avait raison. C'était son père qui ramassait ses boules de pétanque. Et, un peu en retrait, entre les joueurs, il était impossible de se tromper, même si presque tout son corps était masqué. Nicolas. Mon frère se désintéressait de la partie, mais pas de la voiture garée. Cervone jubilait.
Incroyable, ces photos, tu ne trouves pas? Si on prend le temps de les détailler, le premier plan, l'arrière-plan, les regards, les attitudes, elles racontent toute une histoire. Elles révèlent presque tout un secret.
Où tu veux en venir, Cervone?
Sa main se posa une seconde fois sur son épaule dénudée, comme s'il voulait faire glisser la bretelle de sa robe. Comme s'il voulait négocier. Mais bien entendu, elle se faisait des idées.
Nulle part, Clotilde, nulle part. Je sais bien que tu ne m'apprécies pas beaucoup, que tu me détestes autant que tu aimais mon père. Qu'à tes yeux, je représente à peu près tout ce que tu regrettes dans la vie. Comme si j'étais l'incarnation de tes illusions perdues. Les promesses de la jeunesse qui s'éteignent une à une et les connards qui prennent le pouvoir dans un monde de merde. Je ne vais pas m'excuser pour ça, Clotilde. Je ne vais pas m'excuser de m'être mieux adaptée. Parce que je n'ai aucune désillusion, Clotilde, aucun regret.
Il fixa le cliché du feu de camp avant de revenir à la partie de pétanque sur le parking.
Je suis plus heureux aujourd'hui qu'avant. Le temps qui passe m'a rendu plus confiant, plus puissant, plus riche, plus beau même. Alors je ne vais pas m'excuser de ça. Parce que pour en arriver là, j'en ai bavé. C'est pourquoi si tu ne m'aimes pas, eh bien tu vois, ce n'est pas réciproque. Je n'ai aucune haine, aucune aigreur. Juste de la sympathie pour tout le monde. La sympathie de celui qui a réussi. De la sympathie pour toi aussi.
Il posa les boules de pétanque. Une autre paume allait se poser sur son autre épaule dénudée. Chacune des mains de Cervone semblait capable d'une audace supplémentaire pour épater l'autre. Elle se recula d'un pas. Après tout, lui balancer les poivrons dans la figure n'était peut-être pas une si mauvaise idée. « C'est bon, Cervone. Épargne-moi ton couplet de curé. Qu'est-ce que tu sais ?»«
Ne le prends pas avec méchanceté, Clotilde, crois-moi. Et c'est à toi de répondre à la question, à une seule question. Veux-tu connaître la vérité ?»«
Tu la connais ?»«
Tu n'es pas dans un tribunal, Clotilde. Alors retire le costume, tombe le masque. » Et réponds juste à ma question. Veux-tu connaître la vérité ?
Sur l'accident de mes parents ? Cette putain de rotule ? Savoir qui l'a trafiqué ?
Oui.
Tu le sais ?
Oui. Mais tu ne vas pas aimer. Pas du tout aimer la vérité.
Depuis toutes ces années, je n'ai pas vraiment aimé les mensonges non plus.
Il sourit. Observa une dernière fois les photos. Assieds-toi, Clotilde. Assieds-toi, je vais te raconter.